Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Les jésuites au Japon.
Au moment où vous poserez un pied dans ce pays, vous serez en grand danger.
Aller partout pour rejoindre d'autres hommes, en faire des chrétiens, les jésuites se sont fixés cet objectif d'englobement du monde. Dans l'Asie, qui les requiert de plus en plus au XVIe siècle, trois ensembles géographiques sortent de l'indétermination, l'Inde bien sûr, et peu à peu la Chine et le Japon. Saint François-Xavier pose le pied sur l'archipel au milieu du siècle. À sa suite, les missionnaires jésuites y enregistrent beaucoup de succès, surtout dans le sud, mais un siècle plus tard, il ne reste quasi plus rien des communautés chrétiennes. Les édits de persécution, 1612-1614, leur application de plus en plus brutale, ont tout détruit. Le Japon, c'est le pays des tremblements de terre. Sur place, les chrétiens furent alors affrontés à des situations tragiques. Quand vos paroissiens risquent la mort dans des supplices terribles, ne faut-il pas apostasier ? C'est le dilemme dans lequel se trouve le héros du film de Scorsese, Silence, le père Rodriguez. Le cas du père Ferreira est plus célèbre encore. Avant même peut-être que la persécution ne commence, il avait troqué sa soutane contre la robe des bonzes, expliquant dans un livre qui fera date l'incompatibilité du Japon et du christianisme. Les Japonais n'auraient pas la même façon que les chrétiens de lever les yeux vers l'horizon. À Rome, de tout part et tout revient, on s'interroge. Que l'expérience va même renouveler cette interrogation quand elle sera redoublée par la présence jésuite en Chine. Le Japon, comme la Chine, c'est un pays de culture accomplie. Y faire pénétrer une conception du monde toute différente exige une connaissance des savoirs et puis aussi un échange en profondeur, très risqué donc. Rome aujourd'hui béatifie en masse les martyrs du Japon. Qu'ils aient été persécutés, suffit-il à affirmer qu'ils avaient pris le bon chemin ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Pierre Dutheil, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez étudié dans une thèse les jésuites en Chine, vous êtes aussi beaucoup consacré au Vietnam et au Japon. L'histoire des jésuites au Japon est bien documentée de part et d'autre, très concentrée d'ailleurs géographiquement.
Tout à fait, elle se concentre dans l'île du Sud, l'île de Kyushu.
Et est-ce que c'est là que sont les derniers chrétiens cachés ?
C'est là que se trouvaient sans doute la plupart des chrétiens cachés dont le nombre fait débat aujourd'hui.
Et qu'on a retrouvé quand le Japon s'est réouvert à partir de la fin du 19e siècle, après une longue période de fermeture, qui coïncide d'ailleurs avec les persécutions. Mais commençons au départ. Le Japon, ça s'inscrit pour la Compagnie de Jésus dans un vaste programme d'élargissement du monde. L'Église est confrontée en Europe à la Réforme. Elle s'étend vers l'Amérique du Sud, elle s'étend vers l'Asie. Et d'abord, à partir des Indes, où sont des établissements portugais, c'est eux que visite Saint François-Xavier, poisson pilote dans cette affaire.
Le voyage dura un an. Un an au bout duquel je parvins à Goa. Goa, orgueil de l'Empire portugais. Goa, superbe cité aux mille clochers recouverts d'or. Là, je rencontrai des colons comptant sur les perles de leurs rosaires les coups donnés à leurs esclaves. Alors, j'appris à jouer au dé pour ne pas décevoir les vauriens du port. Après cela, je descendis la côte occidentale de l'Inde, longeai la lagune de Malabar, passé devant Calico, et il me fut donné d'entrevoir Cochin.
Et un jour, votre révérence, après avoir connu Travancore, a quitté les ports à verre.
Oui, pour Malacca et les Moluques. En Malaisie, nous avons sauté d'une île à l'autre, puis après Tidore, ce fut Ternate. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, ce fut un voyage triomphal à travers ces îles embaumées.
Alors c'est une interprétation libre par la Tribune de l'Histoire. Sur France Inter, des relations que les jésuites envoyaient d'ailleurs, oui, et qui avaient beaucoup de succès dans le public.
Oui, tous les ans. Tous les ans, les jésuites étaient tenus d'envoyer ce courrier développé à leur provincial qui transmettait au Père Général à Rome.
Et puis le public ensuite entendait cela, c'était plus emphatique dans les textes destinés au public que ce qui était dit dans les textes destinés au père provincial. L'Asie, c'est un grand espace de circulation avec des nœuds, Goa, l'établissement portugais, les îles qui sont au large, et il y a au loin deux espaces indéterminés dont on sait qu'ils sont fermés.
Le Japon et la Chine. Tous deux sont... Enfin, l'un est fermé, c'est la Chine. L'autre est ouvert, au commerce du moins, à la fin du XVIe siècle. Et les premiers, c'est à partir de Macao que quelques navires portugais, dans les années 1540, enfin, juste avant François-Xavier, vont s'aventurer et essayer de commercer au Japon. Donc ils ont commencé par troquer des arquebuses contre de la soie grège, de la soie brute. Et les arquebuses intéressaient beaucoup les autorités japonaises.
Les jésuites, ils empruntent ces bateaux, ils sont une poignée en fait. Combien quittent l'Europe là au milieu du XVIe siècle pour aller vers l'Amérique latine et vers l'Asie?
Alors, ils sont quelques dizaines à partir tous les ans dans les années de la fin du XVIe siècle. Peu d'entre eux sont absorbés par l'Amérique du Sud parce que c'est les franciscains qui sont partis en masse en fait au Mexique au départ. Les jésuites, la mission jésuite va se développer au Brésil, l'Amérique portugaise. Et beaucoup, par contre, sont absorbés par l'Asie, enfin relativement, enfin. Quelques dizaines sont absorbées par l'Asie, où là, c'est l'Inde, en fait, proprement dite, qui absorbe le plus gros.
1549, Saint-François-Xavier, avec quelques compagnons, va aborder le Japon. Il avait connu un Japonais sur le chemin depuis les Indes.
À Malacca, un Japonais dont on a le nom transcrit en portugais, Angiro ou Angiro, qui était un personnage, semble-t-il, assez hâbleur, mais qui a quand même informé François-Xavier sur ce qu'était son pays.
Alors, ce texte qui a été adapté toujours pour la Tribune de l'Histoire est peut-être un peu hâbleur.
Cher père Ignacio, l'accueil des Japonais était fort aimable. On trouve parmi eux ce qu'on ne trouve guère chez les chrétiens. Un noble peut être démuni. Et les gens du commun fort riches. Mais ce noble sera tout aussi bien honoré que s'il possédait une grande fortune.
Après un an à Kagoshima, puis ce séjour à Kyoto, où l'on a ri de nos pauvres hardes, nous voici à Yamaguchi. C'est incroyable. Don Francisco aura plus voyagé que Saint Paul lui-même. L'étonnant, c'est qu'il se prête à toutes les situations. Lui, l'indomptable Hidalgo d'autrefois. S'il ne réussit pas en prédicateur à la soutane trouée, il est capable de s'habiller de brocart, d'arguer de sa qualité d'ambassadeur et, en échange de somptueux présents, d'obtenir du daimo la permission de prêcher et une pagode dont il fait une église. Irremplaçable François.
Alors il partira, il essaiera d'aller en Chine, il mourra en 1652 en face de Canton, mais ses successeurs vont continuer un petit peu la même stratégie qui consiste à jouer avec les seigneurs locaux, et puis vous parliez d'arquebuses et de soie, à se glisser aussi dans le commerce.
Oui, tout à fait, oui. Enfin, il a essayé de trouver en fait un angle d'attaque pour forcer un peu les choses. Alors, c'est vrai que les Japonais sont très hospitaliers à cette époque, ils reçoivent très bien, et puis il y a une sorte de méprise aussi, parce qu'ils prennent le religieux François-Xavier pour un bonze occidental, un bonze qui viendrait de l'Inde, pays d'origine du bouddhisme. Donc, il échappe pas totalement à la confusion, mais il va essayer, pour les intéresser et pour faire du prosélytisme, de s'intéresser aux différents produits du commerce, dont les Portugais étaient d'ailleurs informés à ce moment-là. Alors, ils débarquent tout à fait au sud de l'île de Kyushu, Kagoshima, c'est le port d'ouverture à cette époque de Kyushu au sud, et il va traverser toute l'île pour aller à Yamaguchi, tout à fait au nord. Le grand port de Nagasaki n'existe pas encore à cette époque.
Dites-moi, cette activité d'import-export, elle est doublée d'une connaissance de la langue ?
Non. Non, il apprendra. Enfin, Anguiraud lui avait appris quelques mots, semblait-il. Il va se mettre sur le tas, hein, si on peut dire, au japonais, ce qui n'est pas facile parce qu'il dit, comme ses contemporains, en fait, il ne dispose d'aucun matériel, ni grammaire, ni dictionnaire, etc. Donc, il écoutait parler les gens. Il va faire beaucoup d'erreurs de traduction. Au départ, François-Xavier, notamment, il a confondu le nom du Bouddha en japonais, Dainichi, avec Dieu prononcé à la mode portugaise.
Mais l'un de ses successeurs, on l'est passé maintenant, si vous le voulez bien, dans les années 1580, Valignano, a une politique plus élaborée. En dépit de ce que peut dire à Rome le général des jésuites, il insiste sur l'apprentissage de la langue japonaise et surtout sur des stratégies d'adaptation.
Oui, Valignano promeut en fait l'adaptation au milieu local, ce qui suppose une bonne connaissance des coutumes, une bonne connaissance même des religions, ce qui était assez mal perçu à Rome, et une bonne connaissance de la langue. Donc il ne s'agit pas en fait de... Alors le problème se posait pour les formules sacramentelles, etc. On décalquait du latin, ce qui évidemment n'avait aucun sens pour les gens. Et donc Valignano insiste sur une connaissance linguistique. Alors à partir de ça, les jésuites mettent en place des écoles de langue asiatique à Goa et après à Macao.
1580, Valignano a l'idée d'envoyer à Rome, d'où tout part et où tout doit revenir, le siège des jésuites, le siège pontifical, une ambassade vivante, quatre gamins, enfin des adolescents qui vont grandir, parce que le voyage va durer très longtemps, qui sont comme des tableaux vivants et qui doivent montrer à Rome l'importance du groupe catholique au Japon.
Oui, c'est l'ambassade très connue en fait des quatre jeunes seigneurs. Enfin, ils étaient d'origine aristocratique et leur éducation avait été un peu prise en charge par les jésuites, donc ils étaient chrétiens. Et donc, ils viennent dans leur costume d'origine, hein, pour justement faire sensation à Rome. Alors, il y aura, au cours de l'histoire moderne, il y a d'autres ambassades du même genre, celle des Siamois, par exemple, chez Louis XIV. Et ça rejoint, en fait, une habitude qui est née avec les grandes découvertes. On capturait des Indiens, enfin, Christophe Colomb l'a fait, par exemple, pour les montrer. Ça prouvait bien qu'on y était allé.
Et puis, il s'agissait de susciter l'intérêt à Rome pour obtenir, justement, des stratégies d'adaptation acceptables pour Rome. Vous voyez, c'est important le Japon, il faut qu'on en tienne compte de la réalité japonaise.
Oui, alors il y a effectivement... Il faut que Rome soit consciente du fait qu'il y a une mission réelle qui se développe au Japon. C'était une manière de demander des fonds aussi, parce que les jésuites étaient, comme les autres ordres, étaient complètement démunis sur place. Et donc, ils doivent affronter les menues dépenses de la vie quotidienne. Donc, ces ambassades et ces manifestations étaient indispensables. C'est une forme de publicité que se font les ordres religieux.
Alors, les adolescents japonais, ils ont de la chance parce qu'ils sont reçus par un pape, ils assistent au remplacement de ce pape qui vient de mourir et à toutes sortes de cérémonies qui ont lieu animées par la chapelle pontificale à la Sixtine et au Vatican. Le maître de la chapelle pontificale à l'époque, c'est Palestrina. Tota pulcra est anima mea, bah oui, ce sont des anges, les chanteurs de la chapelle pontificale. Ils chantent sans instrument, sans même des orgues, ils sont l'innocence même.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
À la veille du film de Scorsese, Silence, les chrétiens et les jésuites au Japon, au XVIIe siècle, parce que nous arrivons maintenant au XVIIe siècle. Le voyage des adolescents, il a été très long, il a duré 7 ans, aller et retour. Il faut se rendre compte de cette durée quand on étudie les échanges dans le monde à l'époque. Quand ils rentrent au Japon, la situation est beaucoup moins favorable aux chrétiens que quand ils étaient partis.
Tout à fait, oui, les choses se sont dégradées. En fait, on est là à une époque charnière de l'histoire du Japon. On passe en fait de la période médiévale, de la période féodale, à la période moderne. Et le gros enjeu, c'est l'unification du Japon, non pas sous un empereur, parce qu'il y a un empereur, mais qui est cloîtré, que François-Xavier a essayé de voir, n'a pas pu, mais sous le shogun.
Et qui a l'autorité, pouvoir réel.
Le pouvoir réel, c'est le shogun. Il y a deux pouvoirs parallèles. Et on va passer, là, il y a trois hommes forts, sur lesquels, qu'il faut connaître, enfin, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, et enfin Tokugawa Ieyasu. Tous les trois vont forger, en fait, le Japon moderne, au sens historique du terme. Et la dynastie qui va s'imposer va fermer le Japon, en même temps persécuter les chrétiens et expulser les étrangers.
Alors, changement des rapports de force à l'intérieur du Japon, défavorable aux jésuites. Il faut dire que les jésuites ont aussi été accablés par des interventions parfois intempestives d'autres Européens que les Portugais, d'autres missionnaires que les jésuites, et qui maniaient un peu facilement la poudre.
Oui, alors c'est compliqué, parce qu'il y a... On est dans le domaine de mission qui est réservé aux Portugais depuis les traités de Tordesillas, c'est l'époque de Christophe Colomb. Donc théoriquement, les missionnaires portugais sont entre guillemets chez eux, dans leur mission, et ils y tiennent. Par contre, les deux pays, Portugal et Espagne, sont à cette époque sous la couronne des Habsbourg, et les Espagnols veulent s'immiscer aussi dans ces missions catholique du Japon. Et enfin, à partir des années 1600, les Hollandais mettent en place leur compagnie de commerce, la VOC, et ils arrivent aussi à faire du commerce. Et ils ont solidement l'intention de déloger les Portugais, d'autant plus qu'ils sont protestants. Et c'est une espèce de guerre de religion qui se poursuit là sur mer et sur colonie.
Et les stratégies subtiles des jésuites en sont légèrement déséquilibrées. D'autant que votre maître Pierre Chaunu disait, la conquête spirituelle du Japon, elle avait été faite par d'autres. Et avant les jésuites, il y avait les bouddhistes.
Bien
et
sûr.
Les bonzes.
Bien sûr, les bouddhistes. Alors, l'origine du pays est en Inde, mais le bouddhisme, enfin, la tendance du bouddhisme, j'aime pas trop parler de secte, la tendance du bouddhisme qui a réussi au Japon, c'est celle de la terre pure, qui s'est développée en Chine également. Donc, c'est une tendance mystique du bouddhisme qui s'acclimate très bien au Japon, enfin, surtout dans le contexte féodal et dans le contexte militaire. Et c'est les... En fait, les religieux japonais sont très bien installés au Japon. Ils sont entourés de beaucoup de respect, à la différence de la situation qu'ils ont en Chine. Et surtout, ils sont appuyés sur des monastères très riches, dont les dirigeants du Japon, Hideyoshi et les Tokugawa, se méfient beaucoup.
Eh bien, voici qu'interviennent les édits de persécution, 1612, 1614, 1618, ce sont vos comptes, Jean-Pierre Dutheil, 68 morts, 1619, 90 morts, 1622, 120 morts, et aux morts, par le fait de toutes sortes de supplices, s'ajoutent des humiliations, celles, par exemple, qui consistent à devoir piétiner les images du Christ ou de la Vierge. Nous serons ici dans un instant, dans un extrait du film Silence de Scorsese.
Un marchand européen témoigna des persécutions dont il fut le spectateur.
J'ai vu 55 martyrs qui refusaient de renier leur foi chrétienne. Parmi eux, deux jeunes enfants âgés de 5 ou 6 ans furent brûlés au bûcher dans les bras de leur mère en criant « Jésus, accueille leurs âmes !»
Mais, padre, si nous sommes obligés de piétiner l'image du Seigneur sur le sommet
La prière te donnera du courage, Mokichi.
Si on ne fait pas ce qu'ils veulent, ils vont menacer tous ceux de notre village. Ils les mettront en prison. Les exileront à jamais. Quelle est la solution?
Piétiner. On a le droit de piétiner.
Qu'est-ce que tu dis?
C'est interdit.
Mokichi, tu ne peux pas.
Alors évidemment, là, le spectateur de Scorsese, l'auditeur, peut-être attend une description plus précise des différentes variétés de supplices.
Oui, alors, ça a eu, il faut bien le dire, beaucoup de succès au XVIIIe et au XIXe siècle. Parmi les supplices, il y en a un qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque, c'est le supplice de la croix, qui existait au Japon, totalement indépendant du christianisme. Donc il y avait des croix, et les suppliciés mouraient par étouffement. Enfin bon, c'est le supplice de la croix. Donc inutile de dire que ça a beaucoup marqué. Et puis il y a une collection de supplices à caractère infamant, humiliant, etc. On les jetait dans des fosses d'aisance. J'ai un vieux bouquin, parce que j'aime beaucoup faire les bouquinistes. J'ai un vieux bouquin chez moi qui date des dernières années du 19e siècle et qui décrit par le menu, en fait, tous ces supplices sur les... Enfin, je pense qu'il y a au total une certaine part de fantasme, mais ça a été transmis par des générations de chrétiens.
Mais le même registre de cruauté existait en Europe.
Exactement. Alors, il suffit de voir, la justice civile en Europe, dans les différents pays de l'Europe de la même époque, ou alors le traitement barbare qui était infligé aux marins sur les navires à voile pour la moindre faute, en fait. C'était du même ordre.
Comment constituer les échelles de barbarie? C'est une grande question du XVIe et du XVIIe siècle. Revenons au cas du père Rodriguez, le héros du film de Scorsese, qui était obligé, avec un de ses paroissiens, de piétiner des images du Christ et de la Vierge. Il est dans une situation tragique. Si l'apostasie, il va peut-être sauver des supplices, les paroissiens, mais il va se perdre lui-même. Et en parallèle du père Rodriguez, il y a une autre figure importante, qui est celle du père Ferreira, qui lui, jésuite d'importance, avait quitté la soutane, était devenu bonze, et a publié un livre qui vient d'être réédité, d'ailleurs, aux éditions Chandaigne à Paris, « La supercherie des chrétiens ». Il avait apostasié avant, lui.
Oui, alors c'était les dangers, en fait, que redoutaient les pères généraux ou provinciaux, ces problèmes, en fait, de mise en danger des communautés chrétiennes. Alors le cas est le même pour la Chine, le Vietnam, le Japon. Les paysans chrétiens, en fait, c'est des paysans pour la plupart, mettent en danger leur propre village. Parce que on ne conçoit vraiment à cette époque le prosélytisme, enfin la conversion que comme collective, c'est-à-dire que ce sont des villages qui se convertissent. À ce moment-là, tout le monde se convertit. Donc, en cas de persécution, tout le village est menacé. Et donc, c'est le dilemme, en fait, auquel se trouvent confrontés ces chrétiens cachés après 1614. Donc, notamment sous le successeur de Tokugawa Ieyasu, Hidetada, qui contrôle ça avec une poigne de fer. Et puis, le deuxième cas, alors, est très intéressant, c'est le père Christophe Ferreira. Oui, effectivement, Chandaigne publie la traduction, là, c'est la supercherie dévoilée. Alors, c'est peut-être un cas de conversion au bouddhisme, mais à coup sûr, à mon avis, c'est un cas de libre pensée. Donc, ça préfigure un peu le XVIIIe siècle, le testament de l'abbé Mélier, etc.
Le curé Mélier, c'était un curé qui n'avait pas la foi, et qui écrivait les textes clandestinement avant la Révolution française. Enfin, la grande question, c'est quand même celle de la compatibilité du Japon et des valeurs et de l'histoire chrétienne. Nous ne regardons pas l'horizon avec les mêmes yeux, disent certains. Vous parlez des chrétiens cachés, on les a redécouverts quand, à l'occasion de l'ouverture de l'ère Meiji, on a retrouvé quelques dizaines de milliers d'entre eux.
Baptisé Horatio, un dérivé de l'Horatio latin, cette prière est transmise de bouche à oreille, car toute la religion de ces drôles de chrétiens tient de la tradition orale.
C'est vrai, c'est un mélange de mots latins et portugais, mais on ne sait plus clairement les identifier aujourd'hui.
Cette prière qu'on récite aujourd'hui, elle est principalement constituée de mots latins. C'est ce que les anciens nous ont enseigné. On l'a apprise par cœur, petit à petit, oralement, en une dizaine de jours. Ce qui fait que le sens général, alors là, on ne le connaît pas du tout.
Transmission orale, toute porte fermée pendant des générations.
Oui, donc c'est, alors ça pose le problème du nombre en fait de ces chrétiens cachés. Il y a un ouvrage là qui vient de sortir aux éditions Cartala où on commence à avancer des chiffres à partir de sources japonaises.
C'est quoi, 10 000, 40 000, 50 000 quand on les retrouve?
Oui,
plus.
Oui, aux environs de 50 000. Alors ça suppose qu'il y a eu quand même, il y a eu un nombre important, peut-être 100 000, si vous voulez, chrétiens au début des Tokugawa, peut-être plus. Hein, donc il y a des incertitudes quand même au niveau du nombre. Et puis ça pose aussi le problème de l'originalité de la religion chrétienne pour les Japonais de cette époque. En fait, il y a trois questions sur lesquelles ils butaient. En gros, le problème de la création, on retrouve ça en Chine. Le problème de l'éternité des enfers. L'enfer des bouddhistes existe, mais il n'est pas éternel. Et puis enfin, le problème de la résurrection des corps. Donc c'était les trois choses en fait qui sur le plan des idées en fait
étaient incompatibles
et à l'inverse faisaient la nouveauté en fait de cette religion.
Quand même, les jésuites portugais, je ne sais pas s'ils se souciaient beaucoup du sort des juifs maranes qui avaient dû se cacher après la persécution des juifs, et ils retrouvent là avec bonheur des chrétiens maranes, les chrétiens cachés.
Cachés, oui.
C'est à peu près la même chose, le même phénomène d'enfouissement.
C'est un peu le même phénomène d'enfouissement, mais justement, enfin, au Japon, François-Xavier se réjouit qu'il n'y ait ni mort ni juif, c'est-à-dire ni musulman ni juif, parce qu'il risquait pas de mettre en danger cette mission.
Il ne savait pas que les chrétiens deviendraient des juifs dans des communautés isolées, dans quelques îles du Japon. Merci à vous, Jean-Pierre Dutheil. Donc, nous sommes à la veille de la sortie du film de Scorsese.
Merci.
Et puis ce livre édité par Jacques Proust du Père Ferreira aux éditions Chandaigne. Dans un instant, ça va être La Tête au Carré, donc vous allez connaître le programme parce que Mathieu Vidard est déjà en ligne. Mais il faut remercier à la technique Loïc Frapsos, à la réalisation Valérie Aesterail, la préparation Ilinka Negulesco, Claire Milon, Frédéric Martin et Franck Oliver. Que nous proposez-vous de beau, cher Mathieu?
Alors Jean, aujourd'hui dans La Tête au Carré, une question: est-ce que nous avons toujours mangé de la viande? Et quel est notre rapport justement aujourd'hui à la viande pour évoquer l'humanité carnivore? Dossier donc dans un instant.
Et ben demain nous on va parler du centrisme carnivore, Bayrou, Macron, mais sa longue histoire depuis la démocratie chrétienne, le libéralisme, peut-être le madésisme, ce sera notre sujet. Il est 14h, vous écoutez France Inter.